Vous écoutez, on lit pour vous.
L'année qui valait une décennie. Une chronique signée Élisabeth Vallet, professeure en études internationales au Collège militaire royal de Saint-Jean. Texte publié dans Le Devoir du 20 décembre 2025. En sous-titre, pendant que chacun s'évertue à suivre des yeux la balle qui le concerne, le monde change irrémédiablement. Ce dernier discours aura été à l'image de cette première année de présidence. Un dirigeant empourpré, les deux mains accrochées au podium, vomissant un staccato de mensonges à raison d'une toutes les 22 secondes, dans une vocifération à la nation violente, acide et hérétique, quelque part entre un numéro de cirque et les funérailles de la bienséance. Ce tour de piste ne sera peut-être pas le dernier de l'année, mais force est de constater qu'il s'inscrit dans la droite ligne de l'effet recherché par les idéologues du projet 2025. L'arrosage à la lance à incendie permet de disperser les forces adverses, d'atomiser la résistance et de neutraliser les dissonances. Pendant que les médias s'époumonnent sur la vérification des faits, que les experts dissertent sur des mathématiques alternatives, pendant que chacun s'évertue à suivre des yeux la balle qui le concerne, le monde change irrémédiablement. Derrière l'écran de fumée rose que souffle la Maison-Blanche, il est difficile de prendre la mesure des perturbations économiques. Les économistes rappellent que les chiffres officiels de l'inflation sont empreints de distorsions et qu'il faut les prendre avec tous les grains de sel de la salière. Ce que l'on sait, par contre, c'est que les primes d'assurance maladie vont augmenter de manière stratosphérique. On sait aussi que les militaires toucheront peut-être une prime, mais que celle-ci sera, sans doute, prise dans le budget consacré au logement des forces armées. Il est encore difficile de mesurer les conséquences des ponctions qu'opère ICE sur le marché du travail, alors qu'elle retire de la population active un certain nombre de migrants irréguliers, réguliers et opportunément irrégularisés par un jeu de révocation des protections temporaires, d'interruption des procédures légales d'accession à la citoyenneté ou de manipulation du droit relatif à l'asile, même si elle en réinjecte quelques-uns par le biais des structures carcérales, qui sont aussi des camps de travail, où la paie des détenus est souvent inférieure à 1 $ par jour, la pratique est ancienne, mais son ampleur est inégalée dans ce siècle. Dans le même temps, Amnesty International constate des atteintes aux droits de la personne dans les camps de détention en sol états-unien, faisant état de traitements inhumains et de tortures. L'Union américaine pour les libertés civiles souligne la rapide érosion des libertés publiques, à commencer par les attaques contre la liberté académique et de presse. Pour ceux qui échappent au climat de peur contemporain, les choses ne seront pas plus roses. L'aide en cas de catastrophe naturelle dépend du bon vouloir du roi. La fermeture annoncée au nom de la lutte contre ce que ce gouvernement nomme « alarmisme climatique » de 4 laboratoires de recherche financés par l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique et centrés sur l'étude de l'évolution du climat et des océans sous l'empire du règlement climatique, va dans le même sens. À l'extérieur, la Maison-Blanche crache le feu. De plus en plus, ce président pourrait être tenté de dissimuler ses vulnérabilités internes sous d'aventureuses expéditions extérieures. La guerre au fentanyl, devenue officiellement arme de destruction massive, le déploiement en mer des Caraïbes, la diplomatie de la canonnière ont l'avantage de détourner l'attention. Mais le repositionnement annoncé par le document stratégique de sécurité nationale va de pair avec un réalignement des flûtes états-uniennes. L'aventure caribéenne envoie des signaux alarmants alors que la nouvelle doctrine Monroe s'étire de la terre de feu à l'Arctique. Du Chili, désormais présidé par le fils d'un nazi, au Grand Nord canadien. Pékin et Moscou ont sorti leur calepin pour prendre des notes. Les eaux internationales sont un terrain de jeu acceptable. La souveraineté est une construction obsolète dont la transactionnalité dépend de la force de celui qui la revendique. Les frontières n'existent que pour ceux qui peuvent les défendre. Et le droit international occupe un strapontin. Il faut lire le rapport du service de renseignement militaire danois qui considère désormais les États-Unis comme une menace pour la région nordique. De fait, la cartographie de la réforme organisationnelle annoncée au Pentagone a une odeur de Russie. Le monde, vu de Washington, est redessiné à travers la fusion des commandements chapeautant le Moyen-Orient et l'Asie centrale, l'Europe et l'Afrique, octroyant un caractère subsidiaire à ces régions, alors que ne semblent subsister des structures régionales antérieures que le commandement indo-pacifique. D'une plus grande importance encore, le reclassement du commandement de l'Amérique du Nord et de celui de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud et des Caraïbes dans un ensemble américain fait du Canada non plus un allié stratégique, mais une dépendance nécessaire, coincée entre deux puissances renégates, les États-Unis et la Russie. Pour les Européens, le discours de Vance de février dernier à la conférence de Munich sur la sécurité n'était pas la dérive d'un électron libre, ivre de pouvoir. Au mieux, explique Nathalie Tocci, directrice du Instituto Affari Internazionali, l'Europe est seule. Au pire, elle fait désormais face à deux ennemis, la Russie à l'est et les États-Unis à l'ouest. La sécurité européenne dépend, explique le premier ministre de la Pologne, Donald Tusk, de la résistance ukrainienne. La capitulation de Kiev libérerait des ressources militaires russes qui pourraient alors changer de cible. Autour du Canada, de prendre des notes. Et il est peut-être temps de lire le président finlandais, Alexander Stubb, qui sait ce qu'il peut coûter de partager le lit et la frontière d'un autocrate aux inflexions impérialistes. Stubb parle de valeur, d'ambition, des forces du Rabaska face aux porte-avions et du besoin de réajuster les alliances, de diversifier les liens sans abandonner les valeurs qui façonnent le contrat social. Inutile de chercher à apaiser l'intimidateur en chef, ce serait vain. Inutile de trumpiser les politiques en consolidant l'état d'urgence, en délaissant aussi l'aide au développement, en délaissant ce qui fait la force d'une petite puissance à la géographie défavorable. « C'est où ?» dit-on en Suomi. De la ténacité, une détermination stoïque, beaucoup de soft power et encore plus de courage. Au cours de cette année où le monde a pris une décennie et trop de cheveux blancs, il reste des institutions et des personnes armées de 6 août, plus qu'on ne le voit à l'œil nu. Et pour finir cette année aux accents décadaires, sur une note optimiste, quelque part à Gainesville, en Floride, il y a une petite librairie, The Lynx, qui offre tous les livres interdits. Parce que la résistance, ça commence parfois dans les lignes d'un article ou les pages d'un ouvrage. Fin de cette chronique d'Élisabeth Vallet, titrée « L'année qui valait une décennie », publiée dans Le Devoir du 20 décembre 2025.
Dans les pires cas, on a rapporté des gestes de violence physique. La jalousie sur les réseaux sociaux rend fou, selon une étude. Un texte de Mathieu Robert Sauvé, publié le 8 décembre 2025 dans le Journal de Montréal. Les jeunes n'ont jamais été aussi jaloux car les réseaux sociaux empirent les attitudes de certaines personnes en les rendant encore plus contrôlantes, démontre une étude en psychologie. Dans les pires cas, on a rapporté des gestes de violence physique commis par des conjoints que les réseaux sociaux avaient poussés à l'extrême, explique Sarafina Metellus. La chercheuse met fin à son doctorat sur la jalousie à l'ère de TikTok et Instagram au département de psychologie de l'Université de Montréal. Paru dans la revue Journal of Marital and Family Therapy, son dernier article mentionne que les conjoints anxieux vont plus souvent vérifier les mentions « j'aime »,« like » de la personne aimée et scrutent la liste de ses abonnés ainsi que les messages qui lui sont adressés. Elle a observé que le besoin de contrôle peut aller jusqu'à la surveillance électronique, voire au harcèlement psychologique. Nous avons constaté que cette tendance à la surveillance se traduit par une diminution de la satisfaction conjugale et à une augmentation des conflits après un an, ajoute-t-elle. Pour mieux intervenir. Nous soupçonnions cette réalité, mais elle n'avait jamais été démontrée scientifiquement, commente sa directrice de thèse, Marie-Ève Daspe. Elle a travaillé à la réalisation de cette grande enquête menée auprès de 322 jeunes de 18 à 29 ans, suivis sur 2 ans. C'est à partir de cette base de données que Mme Metellus a tiré ses observations. Il ne faut pas conclure que les réseaux sociaux sont mauvais pour les couples, mais je crois que les thérapeutes doivent être conscients des pièges pour mieux intervenir, commente en entrevue au journal la chercheuse liée, comme la professeure Daspe, au Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles. Parmi les bons côtés des réseaux sociaux, elle mentionne que le fait d'afficher le nom de son ou sa partenaire de vie sur le profil est une façon d'officialiser la relation. De plus, ce mode de communication permet aux partenaires de rester connectés, même lorsqu'ils sont séparés géographiquement, et favorise le partage quotidien de photos et de messages, ce qui entretient la proximité émotionnelle. Du quart au tiers. Les réseaux sociaux sont indissociables de la vie de couple des jeunes et la jalousie serait un des sentiments les plus souvent exacerbés par l'aspect public des échanges. Une étude du Centre de recherche Pew aux États-Unis démontrait en 2020 que de près du quart des utilisateurs de réseaux sociaux avaient ressenti de la jalousie ou des doutes quant à leur relation en raison de la façon dont leur partenaire actuel interagit avec les autres. Cette proportion passait à 34 % chez les jeunes de 18 à 29 ans. C'était « Dans les pires cas, on a rapporté des gestes de violence physique. La jalousie sur les réseaux sociaux rend fou selon une étude. » Un texte de Mathieu Robert Sauvé, publié le 8 décembre 2025 dans Le Journal de Montréal.
les jeunes sont plus heureux au Québec qu'ailleurs au pays. Un texte de Myriam Lafontaine, publié le 15 décembre 2025 dans La Voix de l'Est. C'est que la situation est bien différente au Québec. La province natale de Joshua Bujold fait figure d'exception parmi les données montrant que le bonheur des Canadiens de moins de 30 ans a chuté si rapidement qu'ils sont passés en moins de 15 ans du groupe d'âge le plus heureux du pays au plus malheureux. Cette baisse, décrite dans le rapport mondial sur le bonheur de 2024, publié par le Centre de recherche sur le bien-être de l'Université d'Oxford, était une nouvelle pour le jeune homme. Les chercheurs de l'Université de Toronto, auteurs d'un rapport subséquent sur le bonheur au Canada en 2024, ont noté que le déclin observé au Québec était moins notable selon divers indicateurs. Depuis 2014, ont-ils relevé, l'évaluation du niveau de bonheur par les jeunes Québécois s'est légèrement améliorée dans les sondages Gallup, tandis que la forte baisse de la santé mentale est beaucoup moins marquée au Québec, selon les données de Statistique Canada. Le rapport indique que les facteurs culturels et linguistiques pourraient expliquer pourquoi les jeunes Québécois pensent que leur situation est plus enviable. Cela tient peut-être au sentiment de fierté collective que partagent les francophones, a avancé M. Bujold. Le jeune de 17 ans a remarqué qu'il trouve les gens plus heureux hors de Montréal, là où il y a plus de francophones. Peut-on quantifier la fierté ? Anthony McKenney, auteur principal du rapport de 2024 sur le bonheur au Canada, a déclaré que, même si cela n'est pas facile à prouver, il semble que des différences culturelles puissent changer la donne, d'autant plus que les anglophones du Québec ont tendance à obtenir des scores plus proches de la moyenne nationale en matière de santé mentale autodéclarée. C'était une information très importante pour nous, qui nous a amené à réfléchir aux causes de cette différence entre le Québec et le reste du Canada, a-t-il indiqué. Le rapport mondial sur le bonheur de 2024 a révélé que les pays occidentaux anglophones connaissent tous une baisse du bien-être des moins de 30 ans. Il se pourrait donc que les jeunes francophones soient exposés à un paysage médiatique différent, a noté M. McKenney. Cela suggère qu'il y a quelque chose de particulier dans la sphère anglophone, a-t-il expliqué. Peut-être que la culture des jeunes anglophones ou les réseaux sociaux anglophones créent des attentes difficiles à satisfaire. Mais M. McKenney remarque qu'il est également possible que les conditions de vie différentes au Québec jouent un rôle. John Halliwell, professeur émérite d'économie à l'Université de Colombie-Britannique et rédacteur en chef fondateur du rapport mondial sur le bonheur, suggère également que les réseaux sociaux francophones pourraient être un facteur. Cette différence entre le Québec et le reste du Canada dans l'importance de cette baisse prouve que ce n'est pas seulement l'accès aux réseaux sociaux et l'utilisation d'Internet qui rendent les jeunes Canadiens moins heureux, a déclaré M. Halliwell, l'un des plus grands experts mondiaux en matière de bonheur. C'est la façon dont on les utilise, ce qu'on y entend et y voit, et le type de lien qu'on y tisse avec les autres. Jacques Forrest est psychologue et professeur à l'UQAM. Il s'intéresse de près au rapport mondial sur le bonheur depuis des années et n'est pas surpris de constater que les jeunes Québécois semblent plus heureux que les autres Canadiens. Le rapport mondial sur le bonheur, publié en mars, a révélé que le Québec regardé individuellement se classerait 6e sur les 147 pays étudiés, tandis que le Canada, dans son ensemble, se classait 18e parmi tous les groupes d'âge. Des pays comme la Finlande, le Danemark, l'Islande, la Suède et les Pays-Bas, qui se classent encore mieux, disposent tous de solides filets de sécurité sociale, tout comme le Québec a-t-il remarqué. Le Québec a également les frais de scolarité universitaire les plus bas d'Amérique du Nord. M. Forrest ajoute que le système de garderie abordable de la province et l'assurance-emploi qu'elle offre aux nouveaux parents envoient le message que le gouvernement les soutient. L'idée que c'est la culture québécoise même qui expliquerait cette joie de vivre est cependant une interprétation exagérée, selon le professeur. S'il croit qu'il y a au Québec une certaine conscience du fait que l'identité francophone est précieuse dans un océan anglophone, cela relève davantage de l'anecdote que de la science, a-t-il précisé. Heureux, mais anxieux. Malgré cet écart apparent dans les études sur le bonheur, les jeunes Québécois ont leur lot de problèmes. Près de 45% des étudiants collégiaux et un peu plus de 40% des étudiants universitaires déclaraient des symptômes associés à un trouble anxieux, selon des enquêtes menées en novembre 2024 auprès de plus de 32 000 étudiants. Près de la moitié des étudiants collégiaux interrogés, et plus de 42% des étudiants universitaires ont déclaré des symptômes d'épisodes dépressifs. Un résultat très préoccupant, selon Julie Lane, professeure au département d'éducation de l'Université de Sherbrooke, qui a dirigé cette étude. Les données ont également révélé que les personnes dont l'anglais est la langue maternelle ont obtenu des scores plus élevés en matière de symptômes d'anxiété et de dépression autodéclarés, et qu'elles étaient plus nombreuses à décrire leur santé mentale comme mauvaise. Néanmoins, les données montrent que beaucoup ont une opinion positive de leur santé mentale, a souligné Mme Lane. Près de 89% l'ont décrite comme modérée ou florissante, ce qu'elle trouve très encourageant. Jessica Proulx est en deuxième année à l'Université du Québec à Montréal, où elle suit des études pour devenir enseignante au secondaire. Elle a déclaré que le coût de la vie pesait lourdement sur sa génération. La jeune femme a raconté devoir cumuler 4 emplois pour joindre les deux bouts, ne pouvant pas compter sur des membres de sa famille pour l'aider financièrement. La pression pour réussir ses études est également une source importante d'anxiété, surtout que les ressources ne sont pas toujours là pour aider les étudiants, a-t-elle indiqué. Mais elle dit trouver des moyens de faire face à son anxiété, lui permettant de se décrire comme une personne heureuse. C'était « Les jeunes sont plus heureux au Québec qu'ailleurs au pays », un texte de Myriam Lafontaine, publié le 15 décembre 2025 dans La Voix de l'Est.
Le Bray de Bouleau révèle les mœurs des humains d'il y a 6000 ans. Un texte de Pauline Gravel, paru le 20 octobre 2025 dans Le Devoir. Le Bray de Bouleau, aussi appelé goudron de bouleau, est une substance noire et visqueuse que les humains de la préhistoire tiraient de l'écorce de bouleau et qu'ils utilisaient comme colle et vraisemblablement comme gomme à mâcher. Dans le cadre d'une nouvelle étude, des chercheurs ont analysé les traces d'ADN anciens présents dans des échantillons de brie de bouleau retrouvés sur 9 sites archéologiques situés dans les Alpes et les régions environnantes. Ces traces d'ADN ont révélé des informations étonnantes sur les pratiques culturelles des Européens du Néolithique qui vivaient il y a 6000 ans. La trentaine d'artefacts ont été récupérés à proximité des lacs alpins où des humains du Néolithique s'étaient établis dans des habitations sur pilotis. Le sol saturé en eau de ces sites a permis une très bonne conservation de ces morceaux de brie de bouleau qui sont constitués de matière organique, précisent les chercheurs dans un article publié le 15 octobre 2025 dans les Proceedings of the Royal Society B, Biological Sciences. Le Bray était vraisemblablement obtenu après la cuisson de l'écorce de bouleau dans un foyer de pierre. Au bout de quelques heures de carbonisation, on prélevait le goudron qui avait suinté sur les pierres, et on l'utilisait pour son incroyable propriété adhésive. On se servait de cette puissante colle pour fixer un manche à divers outils, tels que des pointes de flèches et des lames de pierre servant de couteau. On l'utilisait aussi pour assembler les morceaux de vaisselle cassée comme des bols de céramique. Parmi les artefacts étudiés qui dataient de 6300 à 5500 ans, une douzaine présentaient des empreintes de dents indiquant que le bray avait été mastiqué. 10 étaient fixés à la surface d'outils de pierre et 8 étaient à l'état de traces dans de la vaisselle de céramique ou de bois. L'analyse chimique du bray collé sur des outils de pierre ayant été emmanchés a révélé la présence de résine et de bray de pin qui auraient été ajoutés pour accroître la force d'adhésion entre l'outil et son manche de bois. Des analyses génétiques effectuées sur ces mêmes échantillons ont permis de découvrir sur les pointes de flèche de l'ADN de sangliers sauvages et, plus surprenant, de poissons, ce qui confirme que les humains de cette époque utilisaient un arc et des flèches non seulement pour chasser des animaux terrestres, mais aussi pour pêcher. Des informations sur le régime alimentaire. De l'ADN humain a également été trouvé dans le bray de ces outils. Qui plus est, cet ADN était celui d'humains de sexe masculin. Le bray ayant servi à réparer des céramiques contenait quant à lui de l'ADN de femme, ce qui pourrait indiquer qu'il y avait un partage des tâches entre les hommes, la chasse et la pêche, et les femmes, la cuisine. Les auteurs de l'étude demeurent toutefois prudents, car ils ajoutent que, bien que ces résultats tendent vers une telle hypothèse, le nombre d'échantillons est trop petit pour tirer des conclusions définitives quant à la division du travail entre les deux sexes sur ces sites. Les analyses du brai présent dans les réparations de vaisselle de céramique et de bois ont également mis en évidence de l'ADN de pois, de noisettes, de vesque commune, une légumineuse, et de moutons, ce qui laisse supposer que ces récipients étaient employés pour conserver ces denrées ou les cuisiner, voire transformer le lait de brebis en fromage. Les boulettes de brai renferment pour leur part non seulement de l'ADN d'hommes et de femmes, mais aussi de l'ADN microbien buccal de ces mêmes personnes, car après comparaison, cet ADN microbien s'est avéré semblable à celui présent dans le microbiome buccal des humains d'aujourd'hui. Toutes ces observations indiquent que ces morceaux de brai ont bel et bien été mâchés par des humains. L'étude de ces boulettes de brai a également révélé des traces de divers aliments qui composaient vraisemblablement le régime alimentaire des habitants de ces établissements alpins datant de 6000 ans. On y a trouvé des plantes domestiquées, telles que du blé et de l'orge, mais aussi des plantes sauvages comme des noisettes, des faines, fruits du hêtre, et des orties. Également des petits pois, des vesques communes, des graines de lin et des graines de pavot. Les chercheurs ne savent toutefois pas si le pavot était consommé pour sa valeur nutritive, ses effets psychotropes ou les deux. De plus, on fait encore des conjectures sur la raison pour laquelle ces morceaux de brai ont été mâchés par les humains ou néolithiques. Plusieurs hypothèses sont proposées. Certaines avancent qu'on le mastiquait pour le ramollir avant de l'utiliser comme colle. D'autres croient qu'on le consommait pour maintenir une bonne hygiène buccale. Somme toute, le brai de bouleau est assurément la première colle et peut-être aussi la première gomme à mâcher de l'humanité. C'était « Le brai de bouleau révèle les mœurs des humains d'il y a 6000 ans », un texte de Pauline Gravel, paru le 20 octobre 2025 dans Le Devoir.